d'être venu. Donc, je vais vous présenter nos invités pour cette table ronde qui évoquera les relations entre le cinéma de science-fiction et l'histoire, hein, histoire et contre-histoire du cinéma. Donc, quels sont les différents moyens par lesquels le cinéma de science-fiction évoque l'histoire, se sert de l'histoire, emprunte à l'histoire et, dans une certaine mesure aussi, réécrit l'histoire. Nos invités, alors on va commencer par la droite, donc Daniel André qui est maître de conférence à La Rochelle et qui est spécialiste du cinéma de science-fiction, mais aussi de la télévision, qui a fait sa thèse sur la science-fiction américaine et qui a publié un certain nombre d'articles et participé à un certain nombre de colloques sur ces questions, donc et a organisé un colloque à Cerisy-la-Salle avec Daniel Tron, dont je reparlerai tout à l'heure. Ensuite, donc James Morrow, donc l'écrivain bien connu, qui est un habitué du Festival des Utopiales. Il est venu à très nombreuses reprises et vous aurez l'occasion de l'écouter dans d'autres cadres puisque c'est un écrivain très célèbre. Et donc, parmi ses dernières publications, je ne vais pas remonter puisque là, il est là en gros en tant que témoin, peut-être caution littéraire aussi, mais surtout parce que c'est un grand amateur de cinéma, et donc ça m'a paru intéressant de lui proposer de participer à cette table ronde pour nous donner son avis justement sur le rôle des films de science-fiction dans leur relation à l'histoire, avec un grand H. Donc, ses dernières œuvres, donc il y a la trilogie de Jéhovah, dont vous avez certainement entendu parler, qui a fait grand bruit, et puis, plus récemment, The Last Witchfinder, qu'on pourrait traduire par Le Dernier Chasseur de Sorcières, et il est en train de... il a écrit également une novella, c'est-à-dire un court roman, dont il va me donner le nom tout de suite, parce que ce n'est pas encore paru, donc ça devrait paraître au Diable Vauvert prochainement. Okay, you'll tell me about it. Okay. Ensuite, donc... Laurie Guillot, qui est professeur à l'université d'Angers, spécialiste de l'imaginaire américain. Il a écrit de très nombreux ouvrages, sur l'imaginaire américain en littérature, mais il s'intéresse aussi beaucoup au cinéma. Et c'est à ce titre que je l'ai invité. Et il vient de participer à une table ronde sur l'Atlantide, et il participera encore à une table ronde tout à l'heure à 17h. Et enfin, Daniel Tron, qui a fait sa thèse sur les univers de Philip K. Dick et ceux des adaptations filmiques de Philip K. Dick et aussi des films de Terry Gilliam, où, en particulier dans les adaptations des romans de Philip K. Dick, il y a effectivement des références à l'histoire au sens large du terme, ou enfin, une certaine manière de revoir l'histoire, notamment les uchronies, évidemment, de Philip K. Dick, bien connues, dont il nous parlera. Et c'est aussi un habitué des Utopiales. Il a participé à plusieurs tables rondes et il a co-organisé donc ce colloque sur la science-fiction contemporaine. Voilà. Donc, moi-même, je suis donc Gilles Ménégaldo et j'enseigne à l'Université de Poitiers la littérature américaine et le cinéma. Donc, ça va être difficile d'éviter d'évoquer aussi la littérature, évidemment, puisque de ne pas évoquer la littérature, puisque les modèles cinématographiques sont souvent, dans ce domaine en particulier, empruntés à la littérature et à certains grands anciens, si on peut dire, comme H.G. Wells, par exemple. H.G. Wells, qui était à la fois un écrivain célèbre, évidemment, mais aussi quelqu'un qui a essayé de penser l'histoire future. Notamment donc avec Histoire des temps à venir, hein, Things to Come, History of Things to Come en anglais, donc Histoire des temps à venir, qui a été adapté au cinéma par William Cameron Menzies en 1936, et c'est un des premiers films, effectivement, un film important, disons, qui évoque l'histoire, une histoire reconstruite, une histoire parallèle. Donc dans le film où il prévoit par exemple déjà un tunnel sous la Manche qui transporterait des voyageurs, d'ailleurs dans lequel il y a un attentat qui se produit. C'est aussi un film qui évoque le péril atomique, etc. Donc parmi les films évidemment fondateurs, il y a évidemment Metropolis de 1927, hein, le film de Fritz Lang, qui est lui-même une sorte de réécriture de différentes dystopies, mais qui emprunte en particulier, bien sûr, sa topologie, d'une part, à des cités futuristes et des modèles à la fois utopiques et dystopiques sur le plan architectural, mais qui emprunte aussi peut-être à la structure que Wells utilise dans la Machine à explorer le temps, c'est-à-dire un monde divisé en deux, en quelque sorte, les puissants ou les dirigeants étant en haut, hein, dans des tours, des bâtiments prolongés par des terrasses et des jardins, donc un univers paradisiaque, et les ouvriers ou les classes laborieuses, disons, étant au contraire vivant sous terre, dans les souterrains, ce qui évoque bien sûr les Eloi et les Morlocks dans La machine à explorer le temps. Voilà, donc il y a quelques ancêtres comme ça donc il faut évoquer avant peut-être de passer à des questions plus générales sur... Alors comment envisager donc ce rapport entre le cinéma de science-fiction et l'histoire? Donc il y a peut-être différentes manières de l'envisager. Alors, je vais commencer par poser une question assez générale à tout le monde. Quels sont selon vous les moyens d'envisager donc, ce rapport de la science-fiction avec l'histoire avec un grand H, sachant évidemment que par ailleurs le cinéma de science-fiction est aussi un cinéma qui raconte des histoires et qui se construit sa propre histoire. Alors qui veut commencer? Peut-être Daniel? Alors, évidemment, il ne s'agit pas de tout dire, il s'agit de développer un axe. Un axe.
Bon, tant pis alors. Bonjour.
Bonjour.
Bon, on va commencer. Une des choses qu'on a évoquées, peut-être pour avoir un point de début très très simple, on a parlé notamment dans le cinéma de science-fiction de la relecture d'événements historiques importants. Hein, parce que derrière, effectivement, on a une conception de l'histoire assez particulière, sans rentrer. Les premiers cas qui nous sont venus en tête quand on en a parlé pour préparer, c'était déjà Nimitz, Retour vers l'enfer, pour reprendre une des grandes catastrophes, film un petit peu oublié pour certaines raisons, où un porte-avions en fait, américain de la fin du XXe siècle se retrouve, par l'apparition d'un grand tunnel temporaire, se retrouve donc le jour de Pearl Harbor en situation éventuellement d'agir. On est dans un film qui finalement refuse presque l'implication historique, vu que justement il s'arrête juste avant l'Uchronie. Hein, c'est un film où on a en fait un huis clos sur le porte-avions de tas de personnes qui réfléchissent à la possibilité éventuellement des implications de Pearl Harbor. Qu'est-ce que se passerait-il s'ils empêchaient les Japonais effectivement d'attaquer? Et le film s'arrête juste avant. Il est assez frustrant à ce niveau-là, c'est qu'on a tout l'ensemble des réflexions, et au moment du choix, ils choisissent d'intervenir, hein, ils se disent qu'il est moralement inacceptable qu'ils n'interviennent pas, au moment où on allait vraiment avoir une réflexion historique, eh bien, le grand tunnel réapparaît, et ils se retrouvent à leur époque d'origine. Une espèce de grand ancien comme ça qu'on a, de relecture vraiment très claire d'un moment historique. On n'a finalement pas tellement d'Uchronie, si on y réfléchit. On a celle-là comme tentation de l'Uchronie. Le premier axe que moi je voudrais développer là, c'est effectivement, c'est qu'est-ce qu'on a comme uchronie directe. Il y en a une qu'on évoquait tout à l'heure qui est quand même assez parlante, c'est celle de Watchmen. Hein, donc évidemment qui est directement reprise de la BD d'Alan Moore. Mais là on a quelque chose de très intéressant effectivement, c'est une uchronie dans laquelle Nixon a gagné la guerre du Vietnam. Il l'a gagné comment? En utilisant l'arme atomique. Alors c'est pas dit directement, hein, évidemment, c'est fin, c'est Watchmen. Hein, c'est grâce à Dr Manhattan qu'il réussisse à vaincre au Vietnam. Typiquement, avec un tout petit décalage métaphorique, c'est donc bien en utilisant l'arme nucléaire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Watchmen, comme beaucoup de fois, on a plusieurs des axes qu'on a évoqués, plusieurs possibilités d'utilisation de l'histoire par le cinéma qui sont réunies en un. On a déjà donc l'Uchronie réellement, on va modifier un événement qu'on estime être pivot dans l'histoire, et à partir de ça, on va réfléchir à ses conséquences, justement en dépeignant le monde et par rapport à ces changements depuis cet événement-là. Donc c'est effectivement ce qu'on a dans Watchmen. Mais on a en même temps, dans tout récit de SF, et le cinéma n'échappe évidemment pas à cette règle, le fait de postuler un monde, de projeter un monde à partir d'un état actuel. Il s'agit toujours donc de sélectionner des tendances, de mettre en avant certains mécanismes et de les estimer comme dominants. Et donc toute projection d'un monde en science-fiction est une réflexion sur le monde contemporain. On pourrait aller un pas plus loin qu'on avait franchi il y a quelques années dans un colloque sur l'histoire et la science-fiction en expliquant que la science-fiction est de toute façon fait en partie de l'histoire et quelque part une catégorie de l'histoire ou une expérience de toute façon sur l'histoire. Et donc, ce deuxième aspect qu'on a dans Watchmen, mis à part cette uchronie directe, c'est évidemment une réflexion historique sur le sens de l'histoire et sur le sens du présent, par ses débouchés. Et je vais passer la parole juste après, justement, et on retrouve là derrière, en général aux États-Unis, ce qui est très prégnant, c'est une réflexion sur le sens de la mission américaine, puisque les États-Unis se pensent l'identité même des États-Unis se pense dans une perspective historique, dans une perspective qui va être entre une histoire technique et économique et une histoire eschatologique, hein, à différentes échelles. L'échelle de l'histoire, l'échelle de l'histoire divine de l'humanité et l'échelle de l'évolution. Et on est actuellement à une période, et là je vais laisser la parole, où effectivement ces différentes échelles s'affrontent dans la civilisation même aux États-Unis actuellement.
Merci. Puisqu'on parle des États-Unis, tu rebondis, Loric.
Tu as bien dit eschatologique.
J'ai bien dit
ok, d'accord. Moi, personnellement, je ne suis pas, contrairement à ce que dit mon ami, je ne suis pas vraiment spécialiste de cinéma. Bon, en tant qu'américaniste, évidemment, on a tous quelque chose à dire sur l'imaginaire et l'histoire reliés, bien sûr, à l'Amérique et aux États-Unis. Bon, moi, personnellement, j'aurais tendance à croire que toute création, qu'elle soit d'ordre littéraire, cinématographique ou autre, a toujours quelque chose à voir avec l'histoire, que ce soit l'histoire passée, présente ou à venir. Et c'est vrai que le cinéma peut-être par ses possibilités technologiques beaucoup plus spectaculaires dans le sens actuel, dans le sens précis du terme, permet en effet d'explorer, de multiplier les explorations beaucoup plus peut-être que la littérature, et encore j'en suis pas du tout certains. Donc, moi, je veux bien. L'Amérique, évidemment, n'est pas autre chose qu'une projection. Et donc, par définition, on voit bien que certaines phases historiques précipitent, je dirais, ces projections cinématographiques, les projections de l'Amérique sur un futur qui s'exprime par le cinéma. C'est notamment la période actuelle. Mais vous savez, d'une certaine façon, quand je pense à Charlie Chaplin avec les temps modernes, bon, je me dis que déjà, les Américains utilisent aussi le cinéma dans un but d'ordre idéologique qui a quelque chose à voir donc avec l'histoire, que ce soit l'histoire présente et donc par définition l'histoire à venir. Mais c'est vrai que la grande particularité, on parlait du mythe tout à l'heure, mais sur le plan mythique des Américains, c'est de se projeter en effet toujours selon une perspective, bon, que tu peux appeler eschatologique ou apocalyptique, mais en tout cas toujours se projeter dans un monde meilleur, c'est évident. Et alors là où c'est très intéressant du point de vue cinématographique, c'est de voir que ces lendemains ne sont pas forcément meilleurs dans tous les cas, et qu'on trouve donc deux types de projections dans le futur. C'est une projection, je dirais, minoritaire qui exalte les lendemains de l'Amérique avec Griffith, mais enfin bon, c'est pas vraiment de la science-fiction. Ou alors, bon, la science-fiction, bon, faudrait voir à quel moment elle s'accélère dans la société américaine. Peut-être à partir des années 60-70, où là, on rentre peut-être dans un autre monde. Bon, voilà tout ce que j'aurais à dire, mais j'ai du mal personnellement à penser la science-fiction hors l'histoire.
Oui. Là, on voulait essayer d'aborder dans un premier temps, effectivement, plutôt les événements historiques précis qui sont repris, donc comme l'histoire de Pearl Harbor, où il y a un exemple intéressant aussi, avant que je passe la parole à James Morrow, le décalage, par exemple, entre un roman de Wells, donc La machine à explorer le temps, et la version cinématographique de George Pal, du 1954 ou 5, où, de manière intéressante, rétrospectivement, on réintroduit la Première Guerre mondiale, des visions de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, qui évidemment n'étaient pas prévues par Wells, hein, qui parle simplement de guerre future, alors que le réalisateur George Pal, lui, sait que la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale ont eu lieu, et donc il réintroduit dans son récit cinématographique. Donc ça, c'est donc la réinscription, quelque sorte a posteriori, d'événements historiques. Je vais passer la parole à James Morrow, qui peut-être a des choses à dire par rapport à cette inscription de l'histoire dans le cinéma de science-fiction. Et je vous laisse choisir votre période.
Merci, Gilles. Bonjour à tous. My most recent book to see print is a novella called Shambling Towards Hiroshima. I have no idea how you would translate that in French. Shambling, like...
Yes.
Vers Hiroshima.
Mon œuvre la plus récente est une œuvre intitulée... Pardon ?
Traînant du côté, traînant jusqu'à Hiroshima.
Ouais, ce traînant, se trimballant jusqu'à Hiroshima. Titubant.
The plot turns on the possibility that the United States Navy was making a biological weapon at the same time that the United States Army was creating the atomic bomb.
Ok, l'intrigue se fonde sur l'idée qu'en fait la marine américaine avait inventé en fait une arme bactériologique, alors qu'en fait l'armée américaine donc de terre, elle créait la bombe atomique.
This weapon takes the form of gigantic mutant iguanas.
D'accord, donc cette arme avait la forme en fait d'un iguane géant.
La forme d'iguane géant.
Pour la forme d'iguane géant.
C'est mutant. Mutant.
Ah oui, j'avais oublié le mutant. Ouais. D'un iguane géant mutant.
Géant et mutant.
So it anticipates Godzilla.
Et ça anticipe effectivement Godzilla.
The Navy believes that if they can demonstrate this weapon to a Japanese delegation, the Emperor might surrender rather than continuing the war in the Pacific.
Donc la marine pense que si en fait ils font la démonstration de cette nouvelle arme bactériologique, donc de ces iguanes, hein, cette forme d'iguane, à l'empereur japonais, mais au lieu de continuer la guerre, en fait, il va l'arrêter immédiatement.
So the Navy hires the greatest monster actor in Hollywood, a character based loosely on Lon Chaney Jr., to put on a rubber lizard suit and impersonate this Godzilla monster for the visiting Japanese generals and ambassadors.
D'accord, donc je résume. Donc en fait, la marine américaine va engager un acteur américain de corpulence assez importante pour revêtir la tenue en fait de ces iguanes afin de faire en fait une démonstration ou une interprétation devant en fait l'empereur japonais et sa délégation.
He destroys a miniature Japanese city before the eyes of the delegation, hoping that this will prompt a Japanese surrender, because otherwise the Navy is going to unleash these giant, terrible lizards on Japanese cities.
Donc en fait, avant de faire la démonstration, ils détruisent une petite ville japonaise.
L'idée, c'est qu'en fait, le lézard, l'acteur qui ressemble à Lon Chaney, détruit une ville miniature en espérant que ça puisse convaincre les Japonais
d'éviter, en fait, voilà, que ça évite en fait qu'ils aient à détruire effectivement avec leur arme les villes japonaises.
Merci. On y arrive. So, le film de Inoshira Honda, je pense que pour moi, le meilleur exemple de cette phénomène. I regard the original Godzilla as one of the great anti-war films of all time. I would rank it with All Quiet on the Western Front and Kubrick's The Paths of Glory. And I'm serious about that. It's not just a silly monster movie.
Je considère Godzilla, le premier Godzilla, comme étant un des plus grands films contre la guerre, et je le classe au même titre que Les Sentiers de la Gloire de Kubrick et whatever film.
Paths of Glory.
Les Sentiers de la Gloire de Kubrick.
And the other one is.
And All Quiet on the Western Front.
Et tout est calme sur à l'Ouest.
À l'Ouest, rien de nouveau. De Eric Maria Remarque, d'après le roman.
Oui, yeah. If you look at the original cut of Inoshira Honda's Godzilla, you'll see scenes in hospitals in the wake of Godzilla's attack on Tokyo that are clearly meant to evoke the documentary footage, the documentary film footage that came out of the attacks on Hiroshima and Nagasaki. These shots did not survive the American release of the film, but Toho has restored the film, and you can see those scenes now.
Donc dans la version originale de Godzilla, il y a des scènes en fait d'hôpital où on voit donc des gens blessés, et en fait c'est une qui sont à la suite en fait de l'attaque de Godzilla, donc c'est ce qui reste dans son, à la suite de son passage dans la ville, et ça en fait c'est une référence directe en fait à ce qui s'est passé suite à la bombe atomique, ou conséquence en fait du lâcher de la bombe nucléaire.
Merci. Merci. Formidable. C'est tout.
Can I go on? Donc je parle en français ou...
Oui, en français.
Bon, je dis en... Non, ou alors je dis en... D'accord. Bon, je demande en français une question, parce qu'en fait, il vient d'évoquer Kubrick et Les Sentiers de la Gloire, mais il y a Kubrick est quand même un réalisateur important aussi en ce qui concerne cette inscription de l'histoire, cette réécriture parodique, évidemment, en partie de l'histoire dans le cinéma de science-fiction. Et je voulais savoir ce qu'il pensait d'un film comme Docteur Follamour, Doctor Strangelove, ou même donc qui effectivement représente une satire de notamment du gouvernement américain et surtout du système militaro-industriel américain et autour de la question de la bombe aussi. Bon, c'est adapté d'un roman, mais quand même Kubrick en a fait, s'est approprié ce roman et en a fait quelque chose de tout à fait original. Et je voulais savoir si pour vous c'est un film qui reste marquant dans l'histoire du cinéma et pourquoi.
Dr. Strangelove is perhaps my favorite movie.
Docteur Follamour est sans nul doute ou peut-être bien le film que je préfère.
And one of my novels, un de mes romans, Ainsi finit le monde, en anglais, This is the way the world ends, is an hommage to Dr. Strangelove. And I was very pleased that some of the critics said, this novel begins where Dr. Strangelove ends.
J'ai été très content qu'en fait les critiques ont dit que mon roman en fait était la suite de Dr. Follamour, c'est-à-dire qu'il reprenait là où Dr. Follamour s'arrêtait.
On s'est fini le monde de j'ai lu. I think of course also of 2001 A Space Odyssey.
Je pense aussi que 2001 une Odyssée de l'espace.
Which I would have to say fails as prophecy. He imagines in 2001 the Cold War continuing, and of course it more or less ended in 1989 with the fall of the Berlin Wall.
Donc 2001 qui échoue en tant que prophétie, puisque en 2001 il pensait que la guerre froide continuerait, alors qu'elle s'est plus ou moins arrêtée dans les années 97-99.
And he imagines colonies on the moon, which we don't have.
Et il imaginait des colonies sur la Lune que nous n'avons toujours pas.
But it's very much, I would say the film is not factual, but it's true.
Le film n'est pas factuel, mais il est vrai.
He presented for the first time the Darwinian insight that we evolved from the Australopithecines of Africa. It's astonishing that that was put up on the screen in 1968.
Donc, il imaginait en fait l'évolution darwinienne en remontant en fait au fait que nous descendions des Australopithèques. Voilà.
And of course, it was the 2001 A Space Odyssey was the biggest grossing film of 1968, at least dans les États-Unis.
Et 2001 a été en fait le plus gros succès du box-office en 1968 lors de sa sortie.
Because it spoke to the counterculture ethos of transcendence, of grand narrative about the human destiny.
Parce qu'il parlait beaucoup en fait à la contre-culture et à cette quoi?
Un thème cher à la contre-culture du destin de l'humanité.
Voilà, un thème cher à la contre-culture du destin de l'humanité.
Thank you. Merci pour cet hommage à Kubrick. Je crois que c'était important d'en parler. Daniel, merci d'avoir traduit. Et maintenant, à ton tour, je voudrais t'interroger sur justement certains de tes films de prédilection par rapport à cette question de la manière dont le cinéma de science-fiction contemporain en particulier, enfin récent, représente d'une manière biaisée, parodique, satirique, ironique, la société américaine. Et je crois que tu as travaillé en particulier sur un film de Verhoeven, mais aussi sur The Postman. Donc peut-être que tu pourrais nous évoquer ces exemples, ces deux, pas trop longtemps, mais au moins un de ces deux exemples. Voilà.
Parce okay, que c'est... Non. Ouais, non, en fait, pour... Oui. Donc, les deux sont quand même assez différents entre Verhoeven et The Postman. Donc, The Postman, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est un film avec Kevin Costner. Et pour le coup, là, en fait, on a une réécriture de la mythologie américaine. À savoir, en fait, que ce film de science-fiction, en fait, se passe effectivement dans l'avenir, mais c'est après une guerre nucléaire. Et donc, tout est à refaire. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de... Donc, si vous voulez, c'est une reconquête de l'Ouest. Donc, on repart sur la thématique du cheval, des petites communautés qui se défendent, qui essayent de survivre. Et vous avez ce personnage solitaire qui n'a pas de nom, qui va endosser d'ailleurs le nom du postman. Le postman, c'est un facteur en anglais, qui va donc être celui qui transmet le courrier et donc la connaissance. Et donc, en fait, on voit dans ce film et donc dans cette thématique une volonté de reconstruire toute la mythologie américaine, c'est-à-dire repartir sur les bases de qu'est-ce que, on va dire, la démocratie, comment se construit une société, quelles sont les valeurs fondatrices de la société américaine, puisqu'en fait, c'est une société totalitaire qui voit le jour aux États-Unis, comme dans de nombreux films américains. Donc, société totalitaire, on voit en fait la façon dont la société totalitaire s'est installée suite effectivement à cette société de consommation qui est la société de consommation américaine. Comment donc on va à une société de consommation entraîne en fait par la suite une dictature et donc on revient en fait aux origines d'une nation beaucoup plus rurale et comment se construit la société avec un personnage en fait qui va être un personnage qui n'a pas de nom. Et qui va être celui qui va transmettre la culture et comment une société se construit finalement sur la culture, sur la connaissance, sur l'échange de connaissances. Et là, on réécrit toute l'histoire américaine et toutes les grandes valeurs américaines de ce qui fait la société américaine. Donc on a de ce côté-là en fait une volonté de réinscrire en fait ce qui semble être en porte-à-faux dans la société américaine à l'heure actuelle, c'est-à-dire cette pensée qui est en fait une... perversion des cultures fondatrices de la nation américaine telles qu'elles étaient peut-être dans les articles de la Constitution ou à l'origine vraiment de la Constitution américaine et de la création de la nation américaine. Et c'est quelque chose qu'on revoit par exemple aussi dans Starship Troopers qui à sa sortie a été fortement critiqué aux États-Unis. On a traité Verhoeven de nazi. Tout simplement parce qu'en fait son film, et alors que le film a été très bien accueilli en Europe, alors... Pour ma part, je pense que tout simplement, c'est parce qu'effectivement, Verhoeven est en train de mettre le point sur quelque chose qui faisait peut-être mal à la société américaine, à savoir montrer, on va dire, des ressemblances fortes entre une société qui se dit démocratique et libre et qui a des fortes tendances, en fait, au totalitarisme et qui tend vraiment vers une société fasciste. Et donc, ce qu'on voit, effectivement, dans Starship Troopers, c'est toute une réappropriation, on va dire, des grands symboles de l'Allemagne nazie, retransposée en fait sur le continent américain et sur les États-Unis d'Amérique, qui pour le coup ont conquis effectivement aussi l'Amérique du Sud, donc puisqu'ils vont jusqu'au Brésil, et montrer en fait comment le système américain a réussi tous ces symboles qui sont par exemple l'aigle, la façon en fait de percevoir la société ou la citoyenneté. Sous un angle très dictatorial et tyrannique. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les films de science-fiction aussi, c'est un rapprochement entre la tyrannie et la société américaine actuelle. Je vais m'arrêter là, c'est juste un survol en fait.
Non, bien sûr, mais c'est deux exemples effectivement intéressants qui renvoient l'un donc effectivement à l'histoire de la conquête, enfin de la conquête de l'Ouest en quelque sorte, avec le modèle westernien. Et l'autre, effectivement, qui évoque une autre période chargée de l'histoire, indirectement, le totalitarisme nazi, mais qui évoque aussi, par le biais des questions de racisme, d'eugénisme, etc., qui évoque évidemment des périodes plus récentes, notamment la guerre du Vietnam. Alors peut-être que Daniel peut embrayer là-dessus justement.
Oui, je pensais rebondir sur deux choses. C'est par rapport à ce que disait Loric déjà. Les États-Unis sont une projection. Et donc à partir du moment où on va réfléchir sur l'histoire des États-Unis, on va automatiquement réfléchir sur la conscience américaine et on retombe presque invariablement sur le paradoxe fondateur des États-Unis. Un des paradoxes majeurs du XXe siècle qui est... Il y a un vrai paradoxe entre le fait de vouloir être une lumière pour le monde et de ne jamais envahir un autre peuple. Alors que se multiplient évidemment les interventions militaires à l'extérieur. Hein, historiquement, pour vraiment commencer, on commence avec Cuba en 1898, on a la Deuxième Guerre mondiale, jamais oublier la guerre de Cuba pour comprendre. Mais si vous connaissez l'histoire de l'invasion américaine à Cuba à la fin du 19e siècle, vous comprenez exactement la rhétorique du gouvernement américain sur l'Irak. Mais pour rebondir plus directement sur le cinéma, ce que disait James Morrow sur la reprise d'Hiroshi Honda des images qui ensuite ont été éliminées, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans le cinéma de science-fiction. Hein, de l'utilisation des images d'archives, des Nimitz. On sait que la guerre du Vietnam et les images du Vietnam ont eu un impact énorme sur l'esthétique de films comme Predator, de beaucoup de films des années 80. On a ça de la même manière avec les années 90. Les images de la guerre du Golfe, les codes couleurs de la guerre du Golfe, les images de journalistes, de caméras à l'épaule, etc., sont aussi à l'origine et très influents sur le cinéma de science-fiction pendant toutes les années 90. Donc on a vraiment, esthétiquement, il y a une réaction extrêmement forte et très rapide, en fait. Hein, on va dire une absorption de la manière dont se met en scène l'histoire des États-Unis au moment où elle se met en scène, à quelques années près, en l'espace de 2-3 ans, le cinéma les intègre. Donc ça, c'est un premier point intéressant. Effectivement, on a ce qu'on évoquait, qui est d'utiliser la science-fiction comme transfiguration pour mettre à jour des tendances ou des paradoxes ou des contradictions entre l'histoire officielle et l'histoire réelle. Donc Starship Troopers, à ce niveau-là, est un exemple presque type, presque extrême, hein, de... justement d'assimilation d'une certaine conception des États-Unis comme force qui ne va faire que défendre la Terre, qui va se poursuivre un idéal et qui rejoint finalement le nazisme. Plus récemment et à l'inverse, mais dans le même thème, on a Avatar. Avatar qui est, je l'explique comme tel que moi je le perçois, qui est effectivement une reprise de Danse avec les loups dans l'espace. Et c'est exactement comme ça qu'il est conçu, hein, c'est Danse avec les loups dans l'espace, avec une histoire très simple qui, à mon sens, a une vertu pédagogique énorme, qui est quand même d'expliquer ce qu'a été la constitution des États-Unis à une génération d'Américains qui n'a connu que George Bush. Si vous voyez l'âge des spectateurs qui sont allés voir Avatar en masse, ça explique aussi la simplicité de l'histoire, son caractère universel, mais très facile à suivre. Cameron, et le fait tout à fait consciemment, essaye d'expliquer à toute une génération d'Américains qu'il est extrêmement détestable de faire une intervention à l'étranger pour des ressources naturelles. Il est détestable que des compagnies, en fait, pour des intérêts financiers, aillent contraindre l'armée à intervenir. Il est absolument pas anodin que ce soit des mercenaires et non pas une armée nationale qui agisse là-bas. On est toujours dans ces thèmes-là. Et on se retrouve effectivement, c'est le dernier exemple en date de relecture d'histoire américaine en science-fiction, et où se rejoignent justement, et ça qui est intéressant dans ce film-là, et on est typiquement dans la manière dont se pensent les États-Unis, on a toutes les échelles temporelles en une. C'est-à-dire qu'on a à la fois une relecture de l'histoire de la Constitution des États-Unis avec tout le rapport aux Indiens, etc., et en même temps une réaction très très contemporaine à de l'histoire récente. Et avec une volonté aussi politique tout à fait avérée d'un Cameron. Il le dira jamais, mais c'est évident quand on regarde le film. Et c'est peut-être d'ailleurs cette conception pédagogique et générationnelle d'un Cameron qui parle à une population très très jeune qui n'a connu que ça, qui fait très certainement l'écart dans la compréhension du film par rapport à un public européen, toujours persuadé de bien mieux comprendre les messages que le public américain. Il faut être honnête, on se sent un petit peu supérieur souvent. Hein, on a l'impression que la vision de l'histoire des Américains est très basique. Je vous ramène aux commentaires sur la liste de Schindler, sur autre, on a toujours tendance à penser que c'est fait à deux dimensions, en oubliant le public auquel il s'adresse aussi.
I think also, James,
if you want to react on that.
Another symptom of this malaise is the Star Wars trilogy de George Lucas.
Un autre symptôme de ce malaise est la trilogie de Lucas Star Wars, La Guerre des Étoiles.
Désolé. I detest the Star Wars trilogy.
Je déteste la trilogie Star Wars.
I think the sickness at the heart of that vision is American exceptionalism and the idea that the world sorts neatly into the children of light and the children of darkness.
Et je pense que le problème au cœur de cette trilogie, en fait, c'est de séparer le monde en deux, entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres.
I think that what is sometimes called Manichaeism is the single worst idea humans ever came up with.
Je pense que la pire idée que l'humanité ait jamais inventée, c'est le manichéisme.
It takes other forms, Gnosticism, Zoroastrianism, but the Star Wars trilogy is about that. There is no moral ambiguity.
Ça prend d'autres formes, mais
comme le culte de Mithra ou le zoroastrisme et la trilogie Star Wars.
Voilà, ça prend d'autres formes, mais c'est au cœur de la trilogie de Star Wars.
Would you say that about the last trilogy?
Oui, c'est ça, c'est
la dernière trilogie.
Because in the
it's
last trilogy,
I
wasn't of the feeling that you're trying to go over this kind of black and white vision of the world. But maybe I'm giving him much credit.
Est-ce que vous pensez que c'est la première ou la deuxième trilogie? Parce que j'avais pas l'impression que la plus récente soit aussi manichéenne. Voilà.
I think the second trilogy is simply a collection of bad movies.
Je pense simplement que la trilogie la plus récente est une collection de mauvais films, en fait.
But people took the first trilogy seriously as myth-making, and I think it's nothing of the kind.
Mais les gens prennent souvent la première trilogie, la trilogie la plus ancienne, pour quelque chose qui crée du mythe, hein, alors je ne pense pas que ce soit le cas.
And I think it does anticipate the arrogance of George Bush and Tony Blair. It's all up there on the screen. We know who the enemy is because they all look like Darth Vader.
Je pense que ça anticipe en fait George Bush et Tony Blair, hein, d'accord, les deux en même temps. je me rappelle plus.
Ça anticipe leur arrogance parce qu'on les voit bien.
Voilà, ça anticipe leur arrogance parce qu'on les voit bien, effectivement.
C'est tout.
Thank you.
Loric.
Réveillons, sursaut. En ce qui concerne le cinéma américain, oui, mais enfin bon, il n'y a pas que le cinéma américain de science-fiction. Je veux bien qu'on parle de l'Amérique, c'est vraiment passionnant. Mais je pense tout de même que les véritables films pionniers de la science-fiction n'étaient pas américains. Hein, ils étaient anglais, ils étaient inspirés souvent par... Je m'excuse, je reviens un petit peu en... Mais Things to Come, ça, ce sont des films tout de même très importants, ou du côté soviétique comme Aelita, ou des films comme ça, me semble aussi très important. Et puis, c'est un peu comme l'histoire des empires. Il y a un déplacement vers l'Ouest. Les Américains finissent par devenir un pays attrape-tout, où le cinéma, disons dit populaire, finit par englober à peu près toutes sortes de films du B au Z, si j'ose dire. Et je remarque qu'on porte des jugements sur les films qui sont bons, qui sont pas bons. Personnellement, je pense pas que ce soit important, même si on sait que ce sont les meilleurs films qui demeurent. Je pense tout de même que le cinéma est un miroir grossissant permanent de la société. Alors bon, on veut bien parler de la société américaine, mais pratiquement ce dont parle la science-fiction américaine à travers ses films dans les années 70, les grands thèmes des années 70, où là il y a eu une sorte d'explosion, il faut bien le dire, du cinéma contestataire et également du cinéma de science-fiction, c'est des thèmes qui ont fait florès depuis, que ce soit la déshumanisation, l'urbanisme galopant, la pollution, les mutations technologiques, la peur du nucléaire. Bref, ce que nous dit le cinéma américain, en tout cas depuis les années 60-70, c'est on va vers un dérèglement de la planète. Je trouve que les productions récentes de la science-fiction qui s'accélèrent, il faudrait réfléchir du point de vue sociologique sur cette espèce de prolifération des images qui accompagne d'une certaine façon une sorte d'évolution de la société ou de dévolution de la société. Je crois que, évidemment, cette multiplication d'images vient évidemment du côté américain, parce que l'Amérique a toujours entretenu un rapport tout à fait, presque idéologique à l'image. Et je crois que, d'une certaine façon, l'Amérique, évidemment, regarde son nombril à travers, que ce soit des films, des grands films épopées comme La guerre des étoiles ou des films plus intimistes, mais les Américains ne peuvent parler de l'universel qu'à travers leur propre histoire. Et je crois qu'on aurait tort de s'arrêter uniquement au problème de l'Amérique à travers le succès de certains films. Je crois que des mythologues ont très bien montré, par exemple, que la structure de la guerre des étoiles était, bien sûr, on reconnaît par exemple la conquête de l'Ouest ou l'impact du western, bien sûr, sur ce genre de film, mais on sait bien que derrière ce film, il y a 2000 ans d'histoire mythique. Donc les choses sont beaucoup plus complexes. Je crois que le cinéma de science-fiction se veut à la fois, bien sûr, dans un rapport immédiat à la réalité, avec un côté prophétique, mais c'est justement parce qu'il replonge dans les origines mythiques. Si on oublie ce retour en arrière de l'art américain en général, on passe à côté, à mon avis, de l'essentiel. J'observe que les films prophétiques sont, en fin de compte, sont jamais... ce sont toujours des anticipations tout à fait prochaines. Hein. C'est rare d'imaginer le monde dans 1 million d'années. En général, l'Amérique se projette 10 ans, 20 ans, 30 ans à tout casser. Et ça donne un côté quasiment documentaire aussi, qui est tout à fait aléatoire d'ailleurs, parce que si on fait du documentaire, on risque de se planter. Ou alors, il faut faire la bombe de Watkins. Alors là, on tombe vraiment dans quelque chose d'absolument extraordinaire qui a encore une résonance formidable.
Justement, je voulais juste te dire un mot. Merci d'avoir parlé de la bombe. Je crois que c'est vraiment un film. Ça s'appelle The War Game. Hein, donc, c'est à peine de la fiction, effectivement. Mais c'est quand même de la fiction. Mais c'est présenté sous une forme documentaire. C'est une émission pour la télévision, en fait. Qui a été censurée par le gouvernement parce qu'elle était trop réaliste. Et c'est ce qui se passerait si une bombe atomique tombait sur une petite ville à côté de Londres. Voilà, et c'est traité de manière extrêmement réaliste, avec énormément de documentation à l'appui. Donc c'est une fausse fiction, ce que les Anglais appellent un mockumentaire. Hein, c'est un documentaire... et c'est de 1965, voilà. Donc c'est très différent évidemment de l'approche qu'ont pu avoir par exemple les cinéastes hollywoodiens dans les années 50 du péril atomique. Au contraire, là on insiste par exemple sur les mutations d'insectes géants, comme le film de Gordon Douglas sur les fourmis mutantes. Et pour faire un parallèle, donc l'évolution entre les années 50 où on a seulement ce type de film de science-fiction sur le péril atomique. Comme Tarantula de Jack Arnold, etc., où il y a une connivence entre les militaires et les scientifiques, par exemple, et les gens du gouvernement. On a une sorte de confirmation, quelque sorte, du caractère positif du gouvernement américain, de la démocratie américaine, hein, alors qu'au contraire, les films contestataires des années 70 sont beaucoup plus critiques à l'égard des gouvernements et commencent à se développer à ce moment-là. Et ça se prolonge dans les années 90-2000, ce qu'on appelle des systèmes dystopiques, hein, des régimes totalitaires, effectivement, comme par exemple Starship Troopers, mais bien d'autres aussi. Robocop, évidemment, tous ces films-là, c'est encore Verhoeven. Rollerball de Jewison, qui se situe, je crois, juste après la première guerre d'Irak. Donc on voit comment le cinéma de science-fiction reflète effectivement des préoccupations politiques, historiques du moment. Donc il y a bien une inscription dans l'histoire du cinéma. Je vois Daniel qui brûle de reprendre la parole. Donc, peut-être que tu pourrais nous parler d'un exemple du chronique qui est tout à fait intéressant et passionnant dans le cinéma asiatique. Donc, 2009, Lost Memories.
Tout à fait. Pardon, tout à fait, Thierry. Mon voisin me déconcentre. Oui, tout à fait. On a quand même quelques exemples. Un exemple super intéressant du chrony, effectivement, qui est quelque part un pillage coréen de Philip K. Dick, hein, qui s'appelle 2009 Lost Memories, où on reprend, grosso modo, on reprend une trame, comme dans Le Maître du Haut Château, avec une uchronie un peu flottante. Et en fait, donc, c'est transposé dans l'histoire, en fait, entre le Japon et la Corée. Il y a eu historiquement, il y a un léger antagonisme entre les Japonais et les Coréens, vu que la Corée a été occupée par le Japon au début du XXe siècle, pendant assez longtemps. Et on a en fait donc un film qui reprend à peu près tous les éléments dickiens, qui est un film de SF noir, c'est une utilisation spécifique d'un hôtel Shinto, enfin d'un hôtel de chamanisme coréen, elle-même religion qui est plus vieille, qui a accouché du Shinto japonais. Je ne reviens pas dans tout le nombre de thèmes développés dans le film pour expliquer qu'en fait le Japon doit tout à la Corée, mais où justement on modifie un élément historique qui fait qu'au début du XXIe siècle, la Corée est devenue japonaise entièrement, et on a... Effectivement, comme dans le roman, comme dans Le Maître du Haut Château, on a certains éléments, surtout le rêve, et une société qui, elle, garde le souvenir de l'histoire officielle, et qui va finalement réussir. Si je prononce la phrase d'après, le film perd tout intérêt. Je vais donc pas le faire. Ce serait dommage. Par contre, ceci dit, on n'en a pas beaucoup. Et c'est assez intéressant, effectivement, parce que c'est une reprise de l'Uchronie, de la plus principale Uchronie de Philip K. Dick, donc du début du XXIe siècle. Je pensais à autre chose. On avait évoqué deux autres aspects aussi, de la manière dont, dont on évoquait l'histoire. Il y avait déjà la notion d'histoire secrète qu'on retrouve. C'est-à-dire, on va se servir de la science-fiction pour appuyer ou pour transfigurer et permettre de grossir les traits et rendre explicite une réflexion sur l'histoire. De manière directe, pour rester un peu chez Dick, on a la dernière adaptation de Jasmine Team, Jasmine Burrow, où on découvre que l'histoire en fait est ajustée au fur et à mesure par une bande d'hommes en gris, qui sont les J-Men, vraiment directement. C'est une espèce de CIA historique qui intervient par touche. Bon, le film est une romance dickienne, ils ont accouché d'un nouveau genre, je dis pas autre, c'est assez étonnant. Et sinon, on a ça de manière très 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 prégnante dans, évidemment, les super-héros. Ça a été tout le travail de Chris Claremont à l'époque, et qui est maintenant très très appuyé par les dernières adaptations, où on va extrêmement insister sur le fait que Magneto a été déporté. Dans le dernier opus, dans First Class, on va un cran plus loin, vu que les pouvoirs de Magneto se sont développés grâce à une expérience fort bas menée d'assassinat de la mère d'Eric devant lui, qui lui permet effectivement de déchaîner ses pouvoirs. Et ça va permettre, de la même manière qu'on a un peu dans True Blood, même si on n'est pas dans les SF, de, comment on disait, grossir les traits. Donc là, dans le cas des super-héros, on est dans quelque chose de simple. On va avoir effectivement ce qu'avait introduit Chris Claremont à l'époque, c'est-à-dire l'idée de la tolérance de l'autre, à laquelle on rajoute, et ça c'est extrêmement intéressant dans le cas du personnage de Magneto, toutes les théories du surhomme, on rajoute théorie de l'arme parmi nous, de l'ennemi intérieur. Donc on retrouve des grands thèmes en fait de la politique et de la conscience américaine, de la chasse aux sorcières jusqu'à actuellement, jusqu'au développement des armes, etc. On est dans des thèmes assez intéressants. Et c'est une autre utilisation effectivement de l'histoire. On va la réécrire sans la trahir, mais ça va permettre de donner un certain sérieux aussi au récit. Parce que cette idée d'inscrire évidemment les X-Men dans l'histoire et d'en faire quelque chose qui découle et qui est lié à l'histoire du nazisme, etc., permet de sortir de l'idée de personnages super-héros en collant pour adolescents. Tout de suite, ils ont l'air beaucoup plus sérieux quand on en fait les déportés.
Oui, bon, on va pas pouvoir parler de tout. Par exemple, on pourrait évoquer aussi l'importance du steampunk et notamment des romans graphiques d'Alan Moore, dont les Watchmen, dont il a été question, mais aussi la Ligue des Gentlemen ou F for Vendetta, qui là aussi réutilise des événements historiques, comme par exemple l'attentat contre le Parlement qui a eu lieu au XVIIe siècle, XVIe siècle, pardon. Donc on voit que la science-fiction, bon, cette bande dessinée a été adaptée au cinéma, se nourrit évidemment de tous ces événements historiques. Mais pour terminer, peut-être avant de vous donner la parole, je voudrais évoquer quand même un événement important historique des dernières années qui a beaucoup stimulé le cinéma, non pas directement mais indirectement, et qui a eu des conséquences. C'est-à-dire que, bon, c'est évidemment le 11 septembre. Le 11 septembre, pourquoi ? Parce que des films qui étaient en préparation, dont les scénarios catastrophiques post-apocalyptiques étaient en préparation, ont été abandonnés suite au choc traumatique. Mais le 11 septembre s'est en quelque sorte réinjecté dans un certain nombre de scénarii de films et de décors de films, dont par exemple La guerre des mondes de Spielberg, la dernière adaptation en date du roman de H.G. Wells, là encore, parce qu'on a commencé par Wells et on y revient. Et donc je voulais demander à James en particulier ce qu'il pensait justement de l'influence du 11 septembre sur l'imaginaire science-fictionnel, en particulier au cinéma, puisqu'il est, ici il est question de cinéma, mais évidemment s'il veut déborder sur la littérature, c'est son droit.
I think it's ironic that none of the many film adaptations of the War of the Worlds get Wells's theme right.
Il est très étonnant en fait que aucune des adaptations en fait du roman de Wells ne traite vraiment en fait de ce dont parlait Wells.
He is criticizing, satirizing the colonialist impulse in the British soul. And the movies turn that on its head, and they become triumphalist stories of Western ingenuity triumphing over the Martians, or at least holding out until the Martians succumb to their vulnerability to our bacteria.
étrangement, en fait, il critique le colonialisme et les tendances coloniales, bien sûr, de l'Angleterre de l'époque et de l'Empire britannique. Et d'une étrange façon, en fait, c'est retourné pour que ça soit, en fait, une apologie, en fait, de l'ingéniosité américaine.
My friend and colleague Jonathan Lethem, I remember, reviewed, I think it's the most recent Batman movie, which he interpreted as a kind of apology for the George Bush torture regime, the mistreatment of the so-called prisoners in the war on terrorism. So that's an example of a movie that directly is in conversation with 9/11.
D'accord. Alors, mon ami et collègue, en fait, a vu, je crois que c'était le des derniers Batman, comme en fait une apologie en fait du système de torture de l'époque de Bush, en fait. C'est ça. D'accord. J'ai dû oublier la fin, mais oui. Ah bon.
Really? You have detailed the way why he sees the why? How does he? What arguments does he?
Quels sont les arguments pour justifier ça?
I think it's the most recent Batman sequel. There's a scene of torture in which it's presented as a necessary evil, similar to the event. You know, to the procedures of the Bush Cheney administration.
Bruce Wayne, Jack Bauer, same.
Tout simplement parce qu'en fait, il y a des scènes de torture dans Batman et qu'en fait, elles sont justifiées. C'est-à-dire qu'on justifie la torture de la même façon en fait que la torture était justifiée sous l'ère Bush. Donc en fait, et comme disait Daniel, donc en fait, on peut faire un parallèle aussi entre Batman et Jack Bauer dans 24 heures chrono, puisque là aussi, les scènes de torture sont justifiées.
Et ceci dit, on retombe sur un thème fondamental qu'on disait, c'est effectivement la représentation de la violence. S'il y a une chose d'ailleurs qu'on peut reprocher à l'adaptation cinématographique de Watchmen, justement parce que c'est une réflexion sur l'histoire américaine et que le film ne comprend absolument pas et que Zack Snyder ne comprend pas, parce que il le comprend pas dans 300, il le comprend pas en Watchmen, c'est justement sur la représentation de la violence. Quand Moore fait ça, il y a une vraie réflexion sur la manière dont les États-Unis se projettent et le sens de leur mission et le caractère divin de leur mission et de leur civilisation se projette dans les super-héros. Et le fait est que ce qu'il ne fait pas dans le film, c'est justement trahir les trois dernières planches de la BD. Et là, on a quelque chose qui est vraiment, quelque part, un peu dramatique, parce que le film multiplie les signes historiques, hein, pour bien insister sur le fait qu'on est en train de relire l'histoire. Toute la bande dessinée est quand même tendue vers trois planches de charnier, pour justement montrer la réalité du programme d'Ozymandias et de son nettoyage, hein, de la sortie. Et toute la BD est tendue vers ça. Et qu'est-ce qu'on a dans le Zack Snyder? Et ça change totalement le message. Sur une simple représentation esthétique, on a une image pompée sur Akira, puisque tout le monde pompe Akira, chose dont on n'en a pas parlé, mais grande importance de l'histoire dans la SF japonaise au cinéma et en BD, hein, ce mythe d'Hiroshima. Mais donc, au lieu d'avoir des charniers qui reprennent directement les images de Nuremberg à Nuremberg, eh ben, on a exactement l'inverse. On a une espèce d'explosion très clean, très hygiénique. Et finalement, pour quelqu'un qui découvrirait ça sans avoir le background derrière, eh bien, on a l'impression qu'Ozymandias a eu parfaitement raison de mettre fin à la guerre froide. Et que ce méchant Rorschach va refaire partir la guerre froide en disant la vérité, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'il fait au départ. Et je pense qu'il faut que je m'arrête.
Merci, il faut que tu t'arrêtes, oui. Est-ce que vous auriez des questions, s'il vous plaît? Il nous reste... Oui, monsieur. Alors, je ne sais pas si on peut faire passer un micro.
En fait, moi, c'était pour faire un...
Ça marche pas,
non, mais...
Non, c'est mieux comme ça. C'était pour revenir par rapport à ce que disait la dame tout à l'heure, par rapport...
Daniel André.
Merde, Starship Trooper. Il est vrai que quand ce film est sorti, moi, je m'en souviens très bien, on l'a considéré comme un navet. Que Paul Verhoeven est un fasciste, ou on l'a traité comme ça. Et c'est très étonnant, c'est que 10 ans plus tard, je me souviens d'un article dans Le Monde, et cet article disait que, au fond, Verhoeven, quand il a refait ce film, il a pompé sur un auteur de science-fiction qui, comment dire, a pour idéologie l'extrême droite.
Non.
Très étonnant. Non, mais c'est...
Le
parallèle, moi j'ai trouvé le parallèle intéressant. Et il y a des choses... vous êtes parvenu, par exemple, sur la question de Robocop aussi, comment dire, sur l'adaptation de Robocop, sur ces notions, comment dire, de la privatisation, par exemple, ou des choses comme ça qu'on voit qui est en œuvre.
Je l'ai cité brièvement, Robocop, mais on ne peut pas parler de tout, hein, vous avez raison. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Daniel, peut-être.
Comme tu veux. Non, je pensais... Je suppose que l'auteur d'extrême droite, c'est Robert Heinlein, donc je vais sauter au plafond. Ce qui est intéressant avec le film de Verhoeven, c'est qu'il a reçu les mêmes critiques que le roman quand il est sorti. Donc c'est une adaptation, il n'a pas pompé, hein, c'est une adaptation... d'Étoile garde à vous en français. Il se trouve que Robert Heinlein a été très longtemps considéré par beaucoup, notamment par des gens qui ont été extrêmement importants dans la transmission de la science-fiction américaine littéraire en France, comme un auteur de droite, fondamentalement parce qu'il se trouve que effectivement il y a chez Heinlein un véritable respect des valeurs militaires. Pour replacer les choses dans le contexte, Robert Heinlein est quand même quelqu'un qui s'est engagé dans l'armée en temps de guerre. Donc quand lui explique que il a effectivement un rapport viscéral effectivement à l'armée. Est-ce que c'est pour ça que c'était quelqu'un d'extrême droite? Certainement pas, sachant que le même auteur a pu être, à 10 ans d'écart, même pas, ou même de manière contemporaine, décrit comme un chantre du complexe militaro-industriel américain, regardez Étoile garde à vous, avec en même temps les hippies en train de porter au nu Stranger in a Strange Land. Donc ceux qui ont dit ça ne connaissent ni l'histoire de la SF ni du cinéma. Voilà,
merci.
C'est tout.
Bon, merci. Bon, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur Heinlein. Il y a un livre, un très beau livre qui a été écrit sur Heinlein récemment, et donc je vous conseille la lecture de ce livre.
Juste pour ajouter quand même que sur Verhoeven, on ne peut absolument pas l'accuser de ça, parce que tous ces films en fait sont une critique dure de la société américaine, etc., et de la société hollandaise. Quand on pense déjà à son dernier, c'est une critique du fascisme. Donc, a priori, ça tombe automatiquement. On voit qu'il y a toujours les mêmes thématiques quand même chez Verhoeven.
Et la critique du nazisme aussi, évidemment. Oui,
c'est,
aussi,
donc, c'est une critique qui revient perpétuellement chez Verhoeven.
Peut-être... Bon, apparemment, il faut arrêter. Donc, on va... Ah, pardon, James.
Just last word.
James.
Robert Heinlein tended to adopt the politics of whoever he was married to at the time. So sometimes he was leftist, sometimes he was more on the right, but he was a complex man.
En fait, Heinlein adoptait simplement la visée politique de la personne avec laquelle il était marié à l'époque. Donc de temps en temps, il était de gauche, de temps en temps, il était de droite. Il était très complexe.
Bon, je crois qu'on peut terminer sur cette très belle formule, hein, voilà, de temps en temps de gauche, de temps en temps de droite. En tout cas, c'est un grand écrivain. Bon, merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout de ce débat, et puis donc place au prochain débat. Merci.
Merci.
à l'heure. Il est à gauche, juste là. Dans le... Alors,
pour dire qu'on se...